just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 25 novembre en direct sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Mireille Rius. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son premier roman intitulé Contre vents et marées, La Cité Bleue. Et c'est publié aux éditions Amalté. Mais avant d'en parler, la page info. Pour vous signaler que ce soir à 19h à la bibliothèque de Croix-Dorade, 122 route de d'Albi à Toulouse, une lecture spectacle originale, Allez hop, autour de l'œuvre de Jacques Tati avec Anne Cameron et Jean-Michel Hernandez. Et puis le samedi 3 décembre à 11h, ce sera à la bibliothèque des Pradettes, 4 avenue de la Dépêche à Toulouse, que vous pourrez assister de nouveau à cette lecture spectacle. Et puis mercredi 7 décembre à 20h30 à l'Épicentre, 2 impasse Bailac, face à l'église à Tournefeuille, aura lieu le rendez-vous mensuel du Café littéraire de Tournefeuille. Ce sera le dernier de l'année 2016, autour du livre de Bernard Schlink, Le Liseur, une histoire forte où la lecture tient une place importante, donc à découvrir le 7 décembre. Et la dernière info, jeudi 8 décembre à 18h30, à la librairie Les Études, à l'université Jean Jaurès à Toulouse, une lecture spectacle bilingue en français et anglais, dirigée par Anne Cameron et avec les étudiants du département d'anglais. Un oratorio de poètes américains et anglais contre la guerre.
Page à page, Claire Ambille.
Pou-pou-pidou. Et merci à Alex pour la technique de cette émission. Alors, Mireille, c'est la première fois que vous venez à Page à Page.
Absolument. Alors, merci de me recevoir.
Ah ben, merci à vous d'être venue. Et puis, je vais vous présenter donc en quelques mots. Donc, vous avez fait des études de lettres classiques et une licence en espagnol.
Absolument.
Et puis après, vous vous êtes dirigée vers la géographie urbaine. Donc là, ça a changé.
C'est vrai.
Tout au tout.
C'est vrai. Alors, ça a changé. Je ne sais pas si ça a changé le... Ça a donné un plus, une autre perception de ces études universitaires, on va dire.
Oui.
Pour faire simple, rapide.
Et puis après, donc, vous avez fait vraiment de l'urbanisme. Vous avez...
Absolument.
Vous êtes orienté vers l'urbanisme pur, je dirais.
Absolument, voilà. Avec un double troisième cycle en urbanisme et aménagement à Paris et une spécialisation, sur l'Amérique latine.
Connaissez bien.
Que je connais bien, notamment le Brésil. Voilà.
Et puis, donc, urbaniste, c'est votre métier. C'est un métier que vous exercez donc depuis plus de 20 ans.
Absolument.
Dans un cabinet de conseil et d'études en urbanisme.
Voilà, aujourd'hui, oui, que j'ai créé. Et j'ai été salarié d'autres structures avant 2016, voilà.
Alors, c'est un métier original, que je ne connaissais pas jusqu'à la lecture de ce livre, de votre livre. C'est un métier qu'on connaît assez peu, finalement. Je pense, ouais. C'est pas un métier, qui vient à l'esprit comme ça.
Oui. Alors, vous soulevez un beau sujet, celui du métier, celui de la reconnaissance d'une profession. Hein.
C'est une capitale, profession. Mais par contre, c'est un métier effectivement capital. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas assez compte.
Absolument. C'est un métier du cadre de vie. C'est un métier qui allie un certain nombre de domaines, que ce soit
par exemple,
l'architecture,
oui.
Le paysage, la géographie, l'économie, la sociologie, parce qu'en fait, on travaille sur le cadre de vie.
Oui,
des
avec
habitants
les gens, avec
et
les
donc
personnes,
avec les gens effectivement fait, ouais. la dimension humaine est au cœur du sujet, au cœur des préoccupations des urbanistes. Absolument.
Et oui, tout à fait. Et par exemple, un exemple concret, qu'est-ce que vous pouvez créer comme qu'est-ce que vous avez déjà créé d'ailleurs au cours de votre
Alors dans cette profession d'urbaniste, moi mes activités sont centrées sur la planification urbaine. Donc en fait, c'est l'organisation des villes très en amont, des territoires. Hein. Aujourd'hui, on est sur des communautés de communes, communautés d'agglomération, donc des grands territoires. Et c'est l'organisation de ces territoires, tant d'un point de vue des déplacements que de l'économie, zone d'activité, lieux d'habitation, lieux les équipements publics, etc. Donc c'est en fait, c'est de la planification. Voilà, d'accord. Je ne fais pas une œuvre comme un architecte.
Hein. Oui, voilà.
Mais et c'est planifié, peut-être on va. Voilà, exactement, c'est planifié et peut-être. Que vous avez vu dans le livre justement cette différence entre les architectes et les urbanistes parce que
oui,
c'est un des sujets aussi alors c'est pas le sujet majeur
non mais il est évoqué également oui tout à fait et alors justement j'en arrive au fait que ce métier d'urbaniste est en toile de fond dans votre premier roman puisque les personnages principaux sont eux architectes et urbanistes aussi. Et nous allons le découvrir ensemble en nous promenant donc dans cette histoire. Alors, Contre vents et marées, La Cité Bleue, c'est aux éditions Amaltée, et donc c'est écrit par vous, Mireille Rius. Alors, la couverture déjà, elle est toute jolie, elle est toute bleue. Hein, voilà, elle est bleue avec des nuages. Moi, j'ai beaucoup aimé la couverture du livre déjà.
Et savez-vous quelle est la photo prise sur sur cette page de couverture?
Non.
Vous savez où ça se trouve? Non, pas du
non.
tout. Eh ben, c'est en Guyane. C'est la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, absolument.
Ah oui.
Et la page au dos, le fleuve que vous voyez, c'est à Belém. C'est une ville au Brésil.
Ah, voilà. D'accord. Belém, il y a aussi au Portugal.
Peut-être, mais en tout cas, là c'est la capitale de l'Amazonie brésilienne, donc au Brésil.
D'accord.
Oui, voilà.
Eh bien, donc on voyage rien qu'avec la couverture. Parce qu'on voyage aussi, on va le voir dans le roman. Alors, le titre, donc, Contre vents et marées, La Cité Bleue, donc, prend tout son sens à la lecture. On va le découvrir tout à l'heure. Alors, l'architecture, comme je disais, a une place importante dans ce roman. Et ce qui lui donne, je trouve, toute sa singularité, son originalité. C'est la première fois que je lis un livre avec, comme en toile de fond, architecte, urbaniste, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, singulier et original. Et puis, alors, j'ai trouvé que le style était accessible et puis agréable à lire. Et puis, l'intrigue nous emmène au fil des pages et puis nous fait voyager, comme je le disais. Alors, Berlin, Paris, Barcelone et même Moscou. Donc, est-ce que ce sont des villes que vous connaissez, Mireille?
Alors, je ne connais pas toutes les villes de ce monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, en tout cas, et très concrètement par rapport à la Cité Bleue et par rapport au contexte géographique de cette histoire, je ne connais pas Moscou.
Voilà. Pourtant, ça ne s'est pas vu à la lecture.
Ça ne s'est pas vu, mais...
non, pas du tout. On aurait cru que vous y étiez allé, que vous y aviez séjourné.
Et que je m'étais promenée sur les rives de la Moscova.
Tout à fait.
Non, absolument pas. Par contre, Berlin ne m'est pas complètement étranger. Et là, je fais un clin d'œil à ma famille, puisque ma sœur y vit et son fils, qui est mon neveu, y vit aussi.
Et ben voilà.
Donc voilà, donc l'histoire s'appuie aussi sur du réel, hein. C'est un roman, mais on a quand même quelques éléments du réel.
Et Paris, vous connaissez aussi,
Paris,
j'imagine.
Puis je suis intervenue aussi dans le cadre du Grand Paris, donc ça ne m'est pas complètement inconnu. Puis j'ai travaillé dans l'agglomération, dans l'Île-de-France, donc en Essonne, etc.
Et puis Barcelone.
Et Barcelone, qui est la ville que je préfère.
Oui, c'est vraiment la ville qui tient à cœur.
C'est une ville avec son port, c'est une ville, une ville portuaire qui a tout son sens avec l'ouverture, effectivement, c'est ça.
Et puis au niveau architectural, avec Gaudi, il y a beaucoup de choses à voir.
Oui, c'est une empreinte. C'est là où l'histoire, la mémoire a tout son poids. Je trouve que ça fait partie de ces villes historiques qui nous apprennent. Voilà, qui nous apprennent sur le présent.
Hein. Voilà. Oui, j'étais contente de me promener à Barcelone, on va le voir tout à l'heure. Alors, les personnages, il y a des personnages, la plupart sont sympathiques, hein. Il y en a d'autres beaucoup moins, mais chut, on n'en dira pas plus. Alors, il y a par exemple Len Mascar, dans les sympathiques, hein, je précise. Len Mascar, qui est architecte à Paris et qui a perdu sa femme Mel, qui était archéologue et qui a péri dans une mission, apparemment, on apprend. Donc, Len. Ce sont des prénoms, vous avez avez choisi des prénoms qui sont assez originaux, je trouve. Laine, c'est pas un prénom qu'on entend très souvent.
Absolument, ce sont des prénoms, des je dirais avant même des prénoms, des mots qui sont arrivés
comme ça.
Qui sont arrivés comme ça, absolument.
Bon,
absolument.
Après, donc il y a Niklas, donc là aussi c'est un prénom original qui s'appelle Niklas Storm et qui est l'associé donc de Laine et qui a des idées, on pourrait dire, un peu divergentes de Laine et qui leurs rapports sont un peu tendus en début de roman. Ils ont un peu du mal à s'accorder et pourtant ils sont associés. Donc des fois, on peut être associé et être un peu en opposition avec...
Oui, en opposition, en désaccord. Et c'était surtout montrer qu'il y a différentes façons finalement d'apprécier les réalités, d'apprécier les projets.
Suivant qu'elle, oui, on n'a pas le même œil finalement.
Et que c'est un métier du business aussi. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire, en tout cas dans le star system des architectes et on le voit un peu moins chez les urbanistes, mais on est sur des rapports d'argent qui sont conséquents, qui sont importants.
Puis, gros argent, chiffres.
Et on le voit dans l'histoire parce que y a des constructions qui devraient se faire sur un ancien cimetière et on le fait pourquoi? Pourquoi finalement on le fait ce truc-là alors que on va pas construire sur les morts.
Sur un ancien
donc c'est un livre aussi sur la réalité d'un métier
qui a une déontologie
et
avocats, comme
exactement
les médecins.
Exactement. L'attitude de Niklas dans ce livre doit faire remonter en fait la question de l'éthique et la question de la déontologie et que sans un minimum d'éthique il est compliqué d'abord de vivre bien, de vivre avec les autres. Et que notre rapport à l'argent, il est aussi induit par cette éthique posée dans la façon de d'agir et de travailler. Voilà. Sachant que je prends ce sujet un peu là, je pose quelques minutes, quelques secondes là-dessus parce que les urbanistes n'ont pas un métier reconnu. La profession d'urbaniste n'est pas réglementée. Les diplômes ne sont pas reconnus de fait. D'accord.
Oui, donc c'est alors qu'ils brassent des choses colossales, des projets
importants. Double troisième cycle, 3 ans de thèse, politiques industrielles, etc. On est dans une complexité de métier. Mais c'est pas le cœur du sujet du roman.
Non.
C'est pas...
Oui, mais enfin, il est évoqué aussi, puis
absolument.
C'est bien d'en discuter aussi,
absolument.
Parce que bon, c'est, voilà, on apprend des choses. Moi, j'aime bien. Alors, donc, on a été à Niklas Storm, qui a une fille aussi, donc, qui s'appelle Amy, et qui est séparée de la maman, qui s'appelle Elisabeth, qui a une profession aussi importante. Aussi dans le
députée.
Livre.
Elle est députée.
Députée, voilà. Oui,
députée. Elle était avocate. Elle était avocate de profession. Et quand elle a été donc élue députée, elle a abandonné son cabinet à ses associés.
Oui,
et
puis on peut pas faire tout. Et Amy, d'ailleurs, la fille de Niklas et Elisabeth, doit partir au Brésil. Je comprends maintenant pourquoi vous avez choisi de la faire partir au Brésil. Je comprends maintenant.
Mais pas dans n'importe quelle activité. Elle est dans un secteur différent de son père, de sa mère aussi, bien sûr. Dans le secteur des ONG, des organisations non gouvernementales, qui est un secteur d'activité que j'ai pu rencontrer en Guyane, en l'occurrence. Et sur lesquels il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais bon, c'est pas le sujet.
Il y aurait beaucoup à dire sur plein de choses, toute façon. Une demi-heure ne suffirait pas. Alors, un autre personnage important, c'est Samantha, qui est à Barcelone, qui est architecte aussi, et qui travaille avec Yann, qui est aussi son compagnon. Alors, le roman commence à Berlin. À l'inauguration de la coupole où se retrouvent les 4 architectes, donc Laine, Niklas, Samantha et Yann. Et c'est d'ailleurs le cabinet d'architectes de Laine qui a réalisé ce projet berlinois. Alors, la coupole de Berlin, Mireille,
la coupole de Berlin n'existe pas.
Ah! Moi, je suis jamais allée à Berlin, donc voilà, on peut se poser la question quand on n'y a pas été. Donc, elle n'existe pas, cette fameuse coupole.
Non. L'idée de la coupole, c'est en travaillant et en lisant des projets dans le contexte du Grand Paris, que j'ai vu qu'il y avait, défendu par Roland Castro, l'idée d'une maison des projets intitulée La Coupole sur le site de la Courneuve, donc dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai beaucoup lu autour de ça, comme beaucoup d'autres sujets bien sûr, et je me suis dit mais pourquoi ne pas inventer ce qui un jour ne se fera probablement jamais dans le Grand Paris, qui s'appelle la Coupole, donc pourquoi pas le retrouver dans un bouquin, dans un roman, le mien pourquoi pas, en l'occurrence. Et voilà, maintenant pour la petite histoire, je ne parle absolument pas du Grand Paris autour de la Coupole, hein, ça n'a rien à voir, mais si vous avez en mémoire le passage sur le cri des enfants, le linge accroché, etc. Cette vie finalement d'un secteur qui va être restructuré pour y placer la coupole, c'est un peu les cris de ces enfants-là qu'on pourrait entendre en banlieue d'Île-de-France, hein, pourquoi
en
pas sur le site de la Courneuve. Voilà. Donc c'est des extrapolations que je me suis dont je me suis saisie en fait. Mm-hmm. Et
c'est un peu c'est fictif. Mais il y a quand même un brin de réalité dedans. Enfin, il y a quand même de la réalité dans la fiction.
Absolument. Et c'est un vrai sujet. La réalité et la fiction est un vrai sujet.
Tout à fait. Alors, il est question aussi du grand-oncle de Niklas, Hans, qui était un peintre connu, un peintre urbaniste. Donc, il peignait des villes d'abord allemandes et puis russes. Il faisait aussi partie d'un groupe d'artistes idéalistes, visionnaires, des dissidents communistes, qui voulaient, je cite, « à travers l'art, inventer un nouvel ordre des choses pour aménager les villes ». Et puis donc ce grand-oncle de Niklas sera arrêté dans les années 1930 et sera prisonnier durant 20 ans en Russie. Et puis il est aussi question donc d'un tableau peint d'ailleurs par Hans, qui donne d'ailleurs tout son sens au titre de ce roman, hein, puisqu'il s'agit de La Cité Bleue, un tableau peint par ce grand-oncle dissident et visionnaire donc de cette époque. Et puis il y a aussi un concours international, l'aménagement du Grand Moscou, auquel participe d'ailleurs l'agence de Lène et Niklas. Alors la question que je me posais, est-ce qu'il y a des concours comme ça qui existent au niveau de l'urbanisme et que chaque cabinet peut se mettre sur les rangs, je dirais? Oui, ça existe, ça.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Prenez par exemple l'atelier international du Grand Paris, la consultation lancée par notre gouvernement dans les années en 2008 sur le Grand Paris a répondu un ensemble d'équipes, 10 au total, 10 équipes d'architectes et d'urbanistes à l'international. Donc effectivement, le concours du Grand Paris, c'est le clin d'œil concours du
Grand Moscou. Oui.
Ceci étant dit, Moscou réfléchit aussi, comme de nombreuses villes et agglomérations, réfléchit à leur devenir. Et il n'y a pas eu un concours international sur le Grand Moscou. Par contre, il y a eu une délégation moscovite qui était à Paris pour célébrer, je ne sais plus quel événement, mais ça c'était du réel et ça c'est pris dans l'actualité.
Voilà, donc voilà. Vous prenez toujours des petites choses réelles et que vous mettez donc
dans absolument, votre... Absolument, c'est la même chose pour Petra. Pour Petra, la cité historique sur laquelle travaillait Mel, donc la femme et compagne de Lène, et c'est l'histoire de Petra, c'est celle-là aussi, c'est toutes ces techniques. Enfin bon, on va pas. Donc c'est un roman qui s'appuie aussi sur des faits réels.
Sur des faits, voilà, que vous avez un seul peu, auteur. Voilà, distillé au fil des
absolument.
Pages de la Cité
absolument.
Bleue. Alors, on retourne aussi dans le passé, alors même dans l'histoire avec un grand H, puisque quand Niklas retrouve dans sa cave les affaires de son grand-oncle Hans et qu'il découvre eh bien, de nombreuses photos, de nombreuses correspondances afin de préparer la rétrospective qui aura lieu donc sur ce peintre disparu. Et il a même, alors j'ai beaucoup aimé cette impression qu'il a, Niklas, il a même cette impression donc d'être passé à côté de son histoire familiale, de méconnaître ce grand-oncle qui était un peintre pourtant reconnu. Il a l'impression un peu, c'est souvent, enfin je pense que ça peut arriver dans beaucoup de familles d'ailleurs, d'avoir un peu ce sentiment d'être passé à côté d'un personnage de la famille parce qu'on s'y est peut-être pas intéressé quand il le fallait ou quand c'était le bon moment. Et puis après on s'en rend compte et on retrouve un tas de choses et toute une vie finalement qu'on ne connaît pas. de cette personne.
Oui,
ça m'a fait, ça m'a fait penser à ça.
Mais c'est ça. Chaque membre d'une famille est égal à part entière, enfin, à une réalité effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un roman sur les contextes familiaux. C'est vrai que c'est le rapport aux autres, mais le rapport au monde, mais aussi le rapport à l'intérieur d'une même famille.
Je crois tout à fait.
On sort pas indemne de nos vies familiales. Je crois que ça c'est important aussi. Mais c'est en fait un prétexte pour faire basculer Nicolas et lui donner davantage de corps, davantage de sensibilité.
Voilà, tout à fait. Qui lui manquait peut-être au début du roman.
Mais c'était volontaire, c'est-à-dire qu'il servait la cause du business, on va dire.
Oui, de l'argent, des intérêts, des enjeux économiques.
Sa fille est en danger, tableau, etc. Et à un moment donné, le contexte familial...
fait qu'il devient plus sensible, qu'on le sent plus sensible.
Ce qu'il est réellement, peut-être.
Tout à fait, on espère, de toute façon. Alors, j'ai trouvé aussi très intéressant de se plonger justement dans ce passé, dans cette tranche d'histoire, donc les années 1920-1930 en Russie. Cette période, c'est une période qui vous inspire, Mireille, cette période 1920-1930, dans l'urbanisme, avec ce désir de ville idéale, de monde idéal, les villes vertes, Zelenograd.
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et en fait, avant d'écrire cette forme de livre, ce roman, en fait, je réfléchissais sur l'utopie. Voilà.
Ah oui.
Et dans le livre, par exemple, dans le roman, il y a tout un passage où Lene donne un cours.
Oui, à ses étudiants,
c'est tout à fait. Les notes que j'ai pu écrire, etc., sur l'utopie. En fait, au départ, ça devait être un livre sur l'utopie.
Mmh.
Et donc, cette question de l'utopie, du rêve et de la ville rêvée, ou du comment on fait la ville aujourd'hui, je trouvais que l'histoire nous éclaire énormément là, sur des recherches ou des choses qui se sont, qui ont déjà été réfléchies et pensées, et nous éclaire pour l'avenir. Et je me disais, pourquoi pas, les années 20 et 30 ont été effectivement un moment de dissidence, etc., mais un moment de grande création aussi. Et voilà, donc c'était là aussi une façon de reposer l'histoire dans le présent.
Tout à fait. Alors justement, en parlant de créativité, il y a des phrases qui m'ont bien plu aussi, comme celle-ci que je vais citer. Par exemple, il pensa qu'en temps de paix, les hommes ne reproduisent pas le même type de réflexion qu'en temps de guerre ou de conflit. Les actions dans l'urgence exacerbent la créativité et l'innovation. Je pense que c'est tout à fait juste et tout à fait vrai.
Oui.
Enfin, j'imagine que, en matière d'urbanisme,
La question de l'urgence, la question des situations.
En temps de paix, en
maximale,
temps de conflit.
Effectivement, on va à l'essentiel, on se perd pas. Effectivement, et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas être dans l'urgence pour être dans l'urgence. C'est pas, mais que l'urgence donne du sens.
Tout à fait. Alors, on apprend aussi que Nicolas a fait son mémoire sur Moscou, justement, 20 ans auparavant, comme quoi il n'y a pas de hasard, comme dirait le poète, pourrait-on dire. Alors oui, il y a des cambriolages, des menaces, des personnages inquiétants, du mystère, qui sont au rendez-vous tout au fil des pages, mais on laisse le suspense aux futurs lecteurs, bien sûr. Et puis, donc, Nicolas va lire la correspondance de Hans, donc, son grand-oncle, et ça aussi, c'est un passage qui est émouvant parce que c'est toute une époque, ce sont des personnages qui ont disparu forcément, les correspondants, mais qui ont peut-être des descendants, on le verra, mais c'est tout un ça m'a ému aussi quand il lit la correspondance de son grand-oncle qui retrouve toutes ses lettres. Et puis il prépare bien sûr la rétrospective en hommage à Hans, ce peintre reconnu, qui doit avoir lieu à Berlin. Et puis, j'ai bien aimé aussi quand on découvre la maison originale de Samantha à Barcelone, quand Lene va lui rendre visite, une maison d'architecte façon pigeonnier. Alors voilà, et qu'elle a faite elle-même d'ailleurs. Donc vous avez conçu une votre maison alors... ou votre
Non. J'habite une maison en pierre, une vieille maison.
Ah, c'est bien aussi. Hein.
Voilà, dans un village médiéval, voilà. Le pigeonnier, c'est un clin d'œil à notre richesse dans le Sud-Ouest aussi.
Oui, tout voilà. à fait. Oui. On est riche en pigeonniers par
voilà,
ici.
J'habite un département où le pigeonnier est effectivement un élément important d'un point de vue de l'architecture. Oui. Mais je n'ai pas une maison avec pigeonnier.
Non,
c'était pas du tout.
Alors à Barcelone, c'est agréable de se promener avec Samantha et Hélène sur les Ramblas, on passe à côté de la statue de Christophe Colomb et puis sur la place Réale avec ses arcades, j'ai bien aimé. Et puis une allusion aussi à un livre, L'alchimiste de Paulo Coelho, que vous devez apprécier, j'imagine, si vous l'avez mis dans
un conte philosophique qui en dit... Long, oui, absolument.
Oui, donc voilà. Alors dans ce livre, eh bien donc il y a tout un univers sur où l'architecture donc a une place primordiale et c'est très intéressant, je trouve, de découvrir eh bien les différentes facettes de cette discipline qui est, en tout cas pour moi, qui était assez inconnue. Je l'avoue. Et puis alors de l'histoire aussi, plus particulièrement celle de la Russie des années 30, et puis au niveau architectural, donc avec le désir donc de ville nouvelle, d'un monde idéal, et puis la ville verte, et puis une intrigue hein, bien sûr présente, prenante aussi, un mystère à éclaircir, une quête semée d'embûches et de dangers où chacun des personnages va jouer un rôle à sa manière, tout autant qu'ils sont. Et puis il y a aussi de l'amitié et puis même peut-être aussi de l'amour et puis bien sûr au cœur de grandes villes européennes et même jusqu'à Moscou. Donc il y a tout ça dans le livre de Mireille dans Contre vents et marées, la cité bleue aux éditions Amalté. Et puis en tout cas merci beaucoup Mireille pour ce premier roman très original. Alors la question, à quand le deuxième, parce qu'on aimerait retrouver peut-être ces personnages dans une autre aventure ou je ne sais pas.
C'est une bonne question.
Ah,
c'est une bonne question. Il y aura vraisemblablement un deuxième. Voilà. Est-ce que ce sera une continuité comme beaucoup de lecteurs souhaitent le demander?
Oui.
Peut-être. On verra. Mais
vous êtes en cours? C'est en cours ou pas?
Pas vraiment. C'est plutôt en réflexion.
En réflexion.
Est-ce que c'est une suite ou pas? Voilà. C'est
parce que c'est un travail
tranché.
De longue haleine. J'imagine ce livre, il a vu le jour là maintenant, mais j'imagine qu'il est en préparation depuis certainement.
Oui. Réflexion. Je savais pas que j'allais faire un roman en fait au départ. Hein. Et puis c'est pas un livre non plus sur l'urbanisme parce que
non. Voilà. Elle a la toile de fond
et l'urbanisme.
Toile de fond.
Mais c'est pas un roman et le prochain peut-être sera de la même veine, je ne sais pas. Laissons faire le temps.
Oui. Ben vous nous tiendrez au courant en tout cas.
Absolument, Claire.
Ce sera avec plaisir que je vous inviterai de nouveau à parler à page de votre prochain roman. En tout cas,
merci beaucoup,
Mireille.
Merci à vous.
Alors, on se retrouve le vendredi 16 décembre à 14h30 sur Radio Occitanie et je recevrai Marie-Constance Mallard pour une nouvelle aventure de Violette Mirgue. C'est aux éditions Priva et également Claire Garallon pour son album Les jours, les mois et les saisons et c'est aux éditions Mémo. Alors merci encore à Alex pour la technique de cette émission. Restez à l'écoute de Radio Occitanie. Merci Mireille et
Adiciat.
Thank you. dilly dum, poop poopy doop.